Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Et c'est la bande originale avec Leïla Guérin-Boudadi, Lisa Delmoitier, Nording, Anso, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Nordine.
Et notre invité, monsieur Marc Dugas.
Oh oui.
C'est une journée spéciale aujourd'hui sur Inter où nous évoquons les smartphones, la manière dont nous sommes tous accros aux smartphones et justement le numérique est pointé du doigt dans le livre de Marc Dugas qui est notre invité. Bonjour Marc, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien.
Vous allez lentement, mais vous allez bien. Vous allez très bien.
Il s'installe.
Très très bien, voilà, il est tranquille.
Il est là pour une heure et demie.
Vous pouvez garder les chaussures, Marc, vous pouvez garder les chaussures.
Voilà. Il signe l'orgie capitalistique chez Alary Édition. On va en parler dans quelques instants.
Capitaliste.
Capitaliste tout seul.
Ouais. J'ai dit capitalistique.
Oui. C'est
fragilistique.
Oui, c'est un peu ton côté marié.
Exactement.
Copine, c'est ton côté généreux, ça. Il en donne toujours plus.
Bah, capitaliste ou pas
ouais, ouais.
Alors, dites-moi qui chante ça.
Vous avez appelé le bureau du bonheur.
Leïla, de retour.
Ouais.
Monsieur l'ordinateur.
Monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur. Je vous appelle. Au bureau du bonheur,
c'est
car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, mais je n'ai pas bureau du bonheur.
Vous avez des cœurs petits.
Ouais, ouais.
Dites-moi.
Qui chante ça?
Ah oui, bien sûr.
Daft Punk.
Bravo.
Qui a dit ça?
Il n'a pas dit Nardine.
Alex, t'as pas dit toi. Ça va.
Et dis quoi?
Yes. T'as le titre ou pas, Nordine?
Rock.
Robot.
Robot.
Robot. C'est la première musique que je trouve depuis que je suis ici.
Bravo. Tu blagues?
Non, c'est vrai?
Non.
Ouais. Ah, ça fait
plaisir. Ça a été des génériques, le nombre de génériques. Ouais. J'ai eu ça, c'est de ouf. Et là, qui chante ça?
Leïla, ouais, Jean-Louis Aubert téléphone.
Exactement. Donc vous l'avez le thème, hein, ordinateur, oui. Robot, téléphone, ok.
Ah, logique. D'accord.
Un plus pointu.
Daniel, Jean-Sébastien Bach.
Non.
Non, je l'ai.
Alexis Justice.
Non, mais c'est... en tout cas...
Daniel Cassius.
Ils étaient fans. Hein.
De Justice.
Ah,
Alexis R.
C'est AA, ça plus ressemble vieux. À AA.
Non, plus vieux.
Ah,
Pierre-Henri.
Ah non.
Français?
Kraftwerk.
Exactement, bien.
Kraftwerk,
jouer Kraftwerk. Orchestral Manoeuvre in the Dark, voilà. Et les Depeche Mode et tout ça. Totalement fan de Kraftwerk et de Joy Division, bien joué. Ça s'appelle Computer Love.
Je viens de me faire cogner par Leïla.
Non,
elle m'a mis un pas.
Un petit quoi de tapis.
Oui, parce que.
Vous parce qu'elle aime bien.
Hashtag.
Oui, hashtag, ça va.
Ah, remarque, t'as raison.
Et calmez-vous là.
Hashtag pain dans l'épaule.
Ça fait un point pour Lisa, un point pour Nordine, deux pour Leïla. Qui interprète ça? C'est très facile.
Lisa.
Oui.
Destiny's Child. Beyoncé, quoi.
Voilà. Avec Lady Gaga.
Ah oui.
Bravo.
Il y a vraiment un truc. Dès que ça a été fait après 2021, Lisa, elle a forcément.
En fait, j'ai découvert la musique il y a 3 ans. Et c'est pas mal.
Ça va marcher.
Ça. Rythme.
Wow.
Donc là, tu vas avoir du mal, c'est plus ancien.
Daniel.
Ça.
Gerber Lona.
Ça ressemble à ça, ouais.
Ça ressemble un peu à ça.
Daniel,
Sardou,
vous avez le droit de jouer, Marc, hein, si vous reconnaissez.
Sardou.
France Gall.
Oui.
Mais, j'ai le droit de faire, mais je suis nul. Donc.
Des branches, mais c'est un peu le conseil que vous donnez dans le livre, quand même.
Des branches, oui, ça, c'est bien.
Des branches.
Ça, c'est bien, c'est le moment où j'en ai.
Ah oui.
Ça, hein.
Et bien, coupe le son. On passe des heures devant les écrans, c'est exactement. C'est fou comme c'était prémonitoire cette chanson de Berger.
Ah, mais elle a toujours été visionnaire.
Tout se joue sur ce dernier titre.
Alexis.
Oui.
Radiohead.
Non.
Enfin, je voulais anticiper un truc, mais.
Is the water warm enough?
Lady Gaga.
Daniel. Yes, Madonna. Yes,
non.
Shall we begin?
Connu.
Alexis. Nicki Minaj.
Yes,
ça s'appelle Computer Love, encore l'ordinateur.
Gwen Stefani.
Non.
Plus vieux, ancien. Non. C'est plus vieux.
Pardon.
C'est vieux.
Ouais.
Américain.
Ouais.
Layla Pink.
Daniel, Alexis Reagan.
Non.
Michael Jackson.
Non, mais l'autre.
Prince.
Oui. Bien joué.
Ah, l'autre.
Bien joué.
L'autre quoi? Ah,
ouais.
Ah, bien sûr, ok.
Ah, ouais. Ah, le son. Bien joué.
Ouais.
Bravo Alexis.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Bien joué.
Tout arrive.
Mais c'est bon ça.
Je pense qu'on arrête l'émission.
La bande originale. Avec Nagui et Leïla Kadou.
L'ordinateur débranche, on a trop de robots autour de nous. C'est
capitalistique.
Totalement l'orgie capitaliste. C'est ce que l'on voit dans ces entretiens avec Adrien Rivière. Marc Duguay, vous avez besoin d'un
échange parler,
journalistique, d'avoir comme ça une grosse interview, ouais. Mmh.
Bah, vous savez, j'avais déjà écrit deux livres sur le numérique.
Qui sont souvent référencés d'ailleurs dans ces entretiens. Oui.
L'homme nu et l'homme sans contact. Et j'avais pas tellement le besoin d'en écrire un troisième, pour dire la vérité.
Mais.
Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet?
Mais Adrien Rivière est un jeune journaliste extrêmement fin et
brillant,
intéressant. Ouais. Et donc, brillant. Et donc, on a eu cet entretien, voilà, qui fait l'objet d'un livre. C'est plus facile pour moi que d'écrire. Mais c'est vrai que ça tombe bien parce que on est à un moment où j'ai vraiment l'impression que le système déraille, en fait. Sur l'écologie en particulier, où on voit que finalement la lutte contre le réchauffement climatique est totalement cosmétique et que le système se dit finalement comment on va en profiter. On est plus dans une logique encore
de court terme et de capitalisme immédiat.
De court terme, ouais. De profit, ouais. De dire alors est-ce que finalement vous voyez bien les séminaires comment ça se passe dans les grosses boîtes, est-ce que ça ne serait pas un monde d'opportunités? On a déjà flingué la moitié des espèces sur la planète et donc il y a peut-être des opportunités, on sait jamais.
Non mais faire reculer le capitalisme, Marc.
Que le Groenland fonde, que voilà, pétrole, du gaz, on pourrait continuer comme ça.
Je voulais simplement dire faire reculer le capitalisme semble une mission impossible, mais rendre l'écologie comme un objet capitaliste pour que justement l'écologie fonctionne, c'est-à-dire rendre rentable rentable surtout et faire un appât du gain en disant sauvons la planète et donc l'humanité, puisque Hubert Reeves, clairement, dans ce studio, à ce micro, nous avait dit c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité qui est en danger. La planète s'en sortira toujours,
elle
que ce soit
elle
un caillou.
Se reconstituera, elle.
Voilà. C'est l'humanité qui est en danger. Et en faire un enjeu capitaliste, est-ce que ce n'est pas ça la solution pour que l'écologie gagne?
Oui, vous avez raison. Mais le problème, c'est que c'est la période transitoire. C'est-à-dire, quand vous êtes habitué à faire d'énormes profits pétroliers, gazéifères. Moi, j'ai un exemple. Moi, j'aime bien les exemples simples. J'ai une amie qui a été embauchée par une boîte du CAC 40 pour diriger le renouvellement par rapport à l'écologie, tout ça. Et donc, elle rentre dans la boîte, super contente, motivée, tout ça. Mmh. Et puis, elle voit le PDG qui lui dit, bon, on est bien d'accord, il faut pas que les profits baissent, il faut créer un change. Bon, elle est partie deux jours après.
Greenwashing. Il faut ouais, envoyer
non, mais c'est ça.
Un signal de... Même pas, c'est qu'il y a pas de création.
Quand j'ai fait des articles, quand j'avais ma chronique dans Les Échos, sur ces sociétés pétrolières dont je ne citerai pas le nom par charité qui
ont acheté par charité totale j'ai envie de dire
par totale charité <C'est ça. rire> ont pendant des années acheté des brevets qui allaient dans le bon sens juste pour les mettre sous les teignoirs de telle sorte que ils soient pas contrariés Et là, on le voit, jamais les sociétés pétrolières et gazéifères n'ont fait autant de profits.
Comment donc on sort de ça, alors?
On est dans un délire total.
Comment on sort de ça, Marc Duguay? Parce que moi, je vous ai trouvé particulièrement virulent. Je me dis que c'est peut-être aussi la forme, parce que vous êtes dans un échange oral qui fait qu'on est sans doute, on se lâche peut-être davantage quand on est en train de répondre à des questions que plutôt qu'en train d'écrire soi-même, tout seul, dans son coin, un livre. Comment on sort de ça? Parce que c'est un discours qu'on entend depuis tellement longtemps qu'il y a des solutions accessibles, mais qu'on ne les utilise pas parce qu'on ne veut pas venir aller à l'encontre des profits des grosses sociétés. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, vous savez, moi j'ai cité plusieurs fois cette phrase d'un dirigeant d'une grande entreprise française qui, dans une conférence devant tout le monde, dit « Moi, je suis là pour créer de la valeur pour les actionnaires et point barre. » Je pense que c'est cette logique qui est mortifère. C'est-à-dire qu'une entreprise, ça n'est pas... On peut pas être continuellement... Je pense que l'humanité n'a pas d'avenir...
D'un hyper d'une grande surface que vous citez, d'ailleurs, dans le livre.
Oui, c'est-à-dire ouais. On pourra pas toujours être dans ce... dans cette sorte de compétition entre la rémunération des actionnaires, la rémunération des travailleurs, évidemment, enfin des travailleurs, des salariés, et l'intérêt général.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort que
ce
système ?
Et en ce moment, l'intérêt général se réduit, c'est-à-dire qu'en fait, même les politiques, et là c'est un projet d'un autre livre sur lequel je suis, il y a une dans nos sociétés libérales et démocratiques, il y a de fait une collusion entre les grands intérêts économiques des grandes entreprises et les politiques, parce que les politiques ont la trouille des entreprises. Mmh. Parce que les entreprises leur font du chantage à l'emploi en disant « si vous touchez à ça, c'est bon, on met 5 000 personnes sur le carreau ». Donc en fait, ils sont tétanisés par les entreprises. Et regardez ce qui s'est passé quand il y a eu la montée des prix au moment de la crise ukrainienne.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, jamais les entreprises n'ont fait autant de profits qu'à ce moment-là. C'est extraordinaire.
Tout le monde a profité de la guerre, prétextant
gagner un argent phénoménal. Donc, le gouvernement, devant cette inflation, a été obligé
de mettre la main à la poche.
Pour permettre aux gens de survivre, parce que l'inflation, quand ça frappe les plus démunis, c'est extrêmement violent. Donc, en fait, avec le budget de l'État, c'est-à-dire avec l'intérêt général, on a financé les profits des plus grandes entreprises. C'est totalement inique, en fait, ça n'a pas de sens. Et je vous parle, parce que vous savez, on se connaît tous depuis longtemps, je suis pas un universitaire qui anti-entreprise, j'ai été dans les affaires, j'ai dirigé des entreprises, donc je connais ce système.
D'ailleurs,
j'étais assez content de le quitter il y a 25 ans.
Non, mais vous savez de quoi vous parlez.
Marre de cette logique.
Vous savez
de quoi vous parlez. Mais à cette époque-là, ce dont je me souviens, c'est que à mon époque, bon, évidemment, il y avait cette idée de profit quand on dirigeait une entreprise, mais jamais les capitaux n'avaient été rémunérés au taux auquel ils sont rémunérés aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je parle.
Il y a quand même des solutions. Marc, on a jusqu'à 12h30 pour en parler. Il y a quand même des solutions et vous, tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, même si c'est couvert dans votre ciel.
Couvert à l'ouest.
Voilà, c'est ça. Avec cette orgie capitaliste, on va en parler avec Lisa Delmoitier d'abord, qui est là.
Ah oui, Lisa.
Tu n'aurais pas dénoncé comme ça le tout numérique.
Non, la promesse était belle pourtant, mais je suis très déçue, Nagui, très déçue. Ouais. Marc Duguin, vous publiez donc chez Alary Édition l'orgie capitaliste. Si je peux me permettre, beaucoup de capitalisme, certes, trop peu d'orgie. trop peu d'orgie, vraiment. L'orgie capitaliste, c'est le deuxième titre le plus décevant depuis que j'ai compris que les liaisons dangereuses, c'est pas du tout un bouquin entier sur la phrase « Je veux les églises d'exquises et d'excuses wow. ». Oula, dangereuses les liaisons. Massacrées. Non, dans votre ouvrage, Marc, donc peu d'orgie, mais de la dictature consumériste, de l'addiction au numérique, sujet qui nous concerne tous. Un sondage aux États-Unis a révélé qu'une personne sur deux préférerait se fracturer le bras qu'avoir un téléphone HS.
Mais non.
Alors que le radius, tu peux pas le faire sécher dans du riz, hein, les gars. Comme ça. L'addiction au téléphone est un fléau voulu, évidemment. Un ancien de Google a par exemple expliqué qu'ils avaient conçu la fonctionnalité glisser vers le bas pour rafraîchir, donc on retrouve sur Instagram, TikTok, pour imiter les machines à sous dans les casinos, donc pour que ce soit addictif. Sauf que tu gagnes pas de l'argent, tu vois juste des culs. Mais bon, dans la vraie vie, si tu glisses vers le bas sur un cul, tu l'essuies. Donc tu le rafraîchis aussi, finalement. Bon, bref. Mais c'est dramatique pour moi, l'addiction aux écrans. Ça, vous l'avez. Parce que...
on le voit, mais...
Je fais un métier créatif, donc je dois m'ennuyer. Mais vas-y pour t'ennuyer en fixant un écran, à moins de passer ma journée devant un fer conclu, éventuellement. Ils ont trouvé un truc plus chiant que la brocante filmée. Quoi. Je crois que je préfère encore le feu de cheminée sur Netflix. Y a pas de danger. Mais bref, j'ai pensé à une solution pour nous désintoxiquer de nos téléphones. Il faut nous en dégoûter. Hein, sur les paquets de clopes, il y a des photos de poumons noirs. Ben, venez, on s'achète des coques avec des photos, mais des trucs moches, tu vois, des ongles incarnés, notre gueule en lendemain de soirée. Puis on télécharge que les sonneries énervantes. Hein, All I Want for Christmas, Opa Gangnam Style, la voix de ton bébé qui pleure. Hein. C'est dissuasif, c'est contraceptif. Puis on télécharge que des apps nulles aussi. Hein. Comment veux-tu décrocher de ton iPhone quand t'as Uber Eats ou Tinder? C'est trop utile. Alors que si tu télécharges Not Hot Dog, c'est une application qui te permet de scanner n'importe quoi pour savoir si c'est un hot dog. Attendez, je vais scanner Marc Duguin. Est-ce que c'est pas un hot dog, voilà.
Ah, ça fonctionne en tout cas.
Je sais que vous ne les portez pas dans votre cœur. Sinon, il y a aussi l'application Places I Have Pooped. C'est une carte sur laquelle tu peux référencer les endroits où tu as fait caca. Ouais. Et c'est un réseau social. Hein, donc c'est par exemple grâce à Places I Have Pooped que je sais qu'en 2019, Daniel a chié au Colisée. Voilà. Globe Trotter, Dany, j'espère que tu as pensé à rafraîchir ton cul.
Après. Absolument.
Enfin, dernière stratégie, et c'est là que votre titre fait sens, Marc, pour décrocher de nos téléphones, faisons des orgies. Voilà. Je suis très premier degré avec cette idée. Il y a derrière le sexe en groupe un retour au collectif, à l'ère de l'individualisme, une démarche profondément anticapitaliste. Le sexe, ça sert à rien, c'est de l'hédonisme pur. En plus, moi, je pratique le sexe hétéro, donc il y a aussi beaucoup d'ennuis. Le sexe hétéro, c'est l'affaire conclue du cul. Hein. C'est parfois très très long, tu conclues pas toujours. C'est important de s'ennuyer, c'est pas moi qui dis, c'est Marc Duguin. Non, vraiment, c'est un retour à des valeurs plus simples, l'orgie, à nos traditions d'avant, la course individualiste à la technologie. À ça, quand il faut justifier la corrida et la colonisation, on aime bien se cacher derrière nos traditions d'antan, hein, mais quand il s'agit de se faire enculer à 12 comme en Grèce antique, il n'y a plus personne. On est fiers de nos origines ou on n'est pas fiers de nos origines là. Bon. Et enfin, si on n'arrive pas à se discipliner et à se séparer de nos téléphones, sachez que le club libertin est un des seuls endroits où le portable est interdit. Ah, voilà. De laisser au vestiaire le temps de la soirée. Donc finalement, Marc, est-ce que la vraie orgie, elle n'est pas anticapitaliste?
Carrément.
Lisa et son formidable spectacle, J'aime le Sirtaki, le jeudi à la Nouvelle Scène, c'est à Paris.
Et c'est Lisa Delmoitier.
L'orgie capitaliste, c'est en fait le premier chapitre de ces entretiens qui a donné son nom à l'ouvrage. Il y a également au cœur de la dictature consumériste, entrer en dissident, défendre sa liberté envers et contre tout, reprendre le pouvoir à la croisée des chemins. Je fais exprès de lire les en-têtes et les chapitres parce qu'il y a une progression dans votre raisonnement, dans les explications. Tout ne vient pas, puisque c'est la journée qui est consacrée aux écrans sur Inter. Aujourd'hui, en ce jeudi, tout ne vient pas forcément de Steve Jobs et de ces écrans qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. 17 ans, le premier smartphone. Et 17 ans, et on a l'impression que
c'est... pas pour ses enfants.
Ouais, c'est ça. Non, mais vous le dites.
Pour ses enfants.
Vous le dites d'ailleurs, et vous parlez aussi de l'autisme qui touche Elon Musk, Steve Jobs et Bill Gates,
Zuckerberg,
en disant qu'ils ont des points communs, tous ces capitalistes qui finalement vivent sur notre dos. Nous sommes les produits de leur consommation, à tel point que ils envisagent d'aller sur d'autres planètes ou de rendre l'être humain
éternel. En fait, ils veulent être Dieu. C'est-à-dire que là, ils veulent couper la chic à tous les religieux. Ouais. Dieu, c'est nous. Cherchez pas ailleurs, c'est nous. On va devenir immortels grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas totalement exclu. Ouais. Parce que pour l'instant, il faut être clair, on a un hardware qui est pas terrible. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de la destruction humaine, c'est le fait de manger, c'est le fait d'avoir beaucoup de déjections à retraiter, le fait de boire, d'avoir besoin d'eau, enfin de
respirer
et de consommer.
Et de consommer évidemment comme des obsessionnels, c'est là-dedans qu'on est. Donc en fait, la perspective couvre l'intelligence artificielle, et je pense qu'aujourd'hui, quand on dit ça, les gens se disent c'est de la science-fiction, c'est du baratin, ça n'arrivera pas. Moi, je suis persuadé que ça arrivera. C'est-à-dire que la mutation de l'être humain... De toute façon, si on veut aller vers des conquêtes, vers d'autres planètes, compte tenu des rayonnements, il faut qu'on change de hardware.
Mais c'est pas une immortalité que, dans notre corps dont vous parlez.
Moi, je pense
c'est l'homme bionique, non ?
Je pense qu'il y a une probabilité. Il y a une probabilité, mais à très long terme. Évidemment, c'est pas la semaine prochaine. Hein.
Mais c'est donc pas si longtemps que ça.
Non, c'est pas si longtemps que ça.
2100 pour vous, ça reste une date critique.
Ouais. On mute, c'est-à-dire que on va être tout à fait capable de reconstituer le cerveau humain et son fonctionnement
On est même capable de donner de l'émotion à l'intelligence artificielle.
De donner de l'émotion à l'intelligence artificielle. Et ce qu'il y a aujourd'hui qui est une des caractéristiques de la vie, c'est que l'ordinateur peut apprendre par lui-même. J'avais vu cet exemple très intéressant d'ailleurs dont parle Max Tedmark, qui est un chercheur américain très 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 intéressant, d'un robot à qui on n'a pas appris à faire un geste et qui au dernier moment on le met devant un obstacle et c'est par lui-même qu'il apprend à réagir par rapport à
ça. Oui, mais à partir des données qu'on lui a aussi inculquées.
Oui, mais comme nous. Mais comme nous. Ouais. C'est-à-dire que la question de l'apprentissage dans un ordinateur, c'est une question essentielle parce que c'est ça la vie. C'est quoi un être humain? C'est un long apprentissage. Ensuite, pour devenir un consommateur compulsif, bon, c'est peut-être pas, peut-être pas forcément génial. Ouais, tout ça pour ça.
Mais, et donc, vous prenez le minimalisme?
Non, moi je prends de la raison. Ça a l'air super.
Oui, mais est-ce que ça passe par le minimalisme, c'est-à-dire par réduire la consommation? Et vous entendez le raisonnement?
Le problème, si vous voulez, c'est que l'industrie numérique aujourd'hui, c'est une industrie qui se base sur nos instincts primaires, sur des instincts reptiliens et sur les mécanismes de l'addiction. C'est quoi l'addiction quand vous parlez avec des psychanalystes ou des psychiatres?
C'est ce que nous ferons tout à l'heure avec le docteur Laurent Carilla.
C'est une névrose obsessionnelle pour lutter contre la dépression, en fait. Pourquoi on se met à boire? C'est pour pas déprimer.
Daniel,
pourquoi on joue?
Le goût, c'est...
Pourquoi on joue au casino? Et que il y a cette excitation, parce que c'est une histoire de dopamine, en fait. Cette excitation de se dire, ah ouais, j'ai gagné tant, je mets tout sur le tapis, je vais tout perdre. Et demain, je suis à la rue. C'est une excitation, ça. C'est de la dopamine. Et ce qui est en train de se passer avec les téléphones, avec les écrans, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on est totalement saturé.
Marc.
Et là, c'est inquiétant.
D'accord.
Parce que...
Marc Duhin, je veux juste, pour repartir dans le cycle du capitalisme et de la société, dire on est trop sur les écrans, on consomme trop, on achète trop, on mange trop, on est addict, on n'existe qu'avec notre carte bancaire et qui n'existe même plus. Maintenant, ça devient le téléphone qui sert de carte bancaire. Il faut réduire ça, sinon on va imploser, on va exploser en plein vol. Très bien. On vous répond, mais il y a des gens qui sont dans ces commerces, il y a des gens qui fabriquent ces vêtements, ces objets que vous consommez. Si vous ne les consommez plus, si vous tombez dans du minimalisme, que vont-ils faire? Ils vont être au chômage, ils vont plus travailler.
Ils vont s'ennuyer.
On va plus fabriquer.
Mais la question, en fait... Non,
vous comprenez cette spirale dont vous faire parler?
Tout cette spirale dont vous parlez, Nagui, c'est une spirale de création de valeur. Ouais. C'est-à-dire, on crée de la valeur. De la valeur, on en créera toujours parce qu'on est... On a pas mal de défauts, mais on est quand même une espèce assez intelligente, donc de la valeur. La question, c'est quand même que, en termes de répartition de cette valeur, de répartition des richesses, on est des ânes. Aujourd'hui, on voit bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire quand on voit les fortunes qui se sont...
Mais ça, on ne pourra pas le changer du jour au lendemain.
Non,
c'est une prise de conscience, mais pour ça, il faut
que l'homme reste un homme politique.
Okay.
Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un consommateur. On est de moins en moins.
Oui,
on
ne va plus voter. Par contre, on consomme et le bulletin de vote, c'est la carte bancaire. C'est-à-dire que on décide par notre consommation d'un choix politique. On décide de consommer plus ou moins des produits, d'acheter plus ou moins français ou plus ou moins étranger, d'acheter plus ou moins informatique.
On nous a vendu cette idée du consommateur en réalité, mais c'est peut-être aussi tellement associé à la consommation
C'est ce qu'il dit. Dès l'instant où on consommera moins et dès l'instant où on ira vers quelque chose d'un peu plus minimaliste, on pourra avancer. Vous entendez bien, et pardon de prendre un exemple personnel, mais dès l'instant où je prône le végétarisme, par exemple, ou en disant consommons moins de viande, j'ai des agriculteurs qui m'écrivent ou des éleveurs qui m'écrivent en disant ok, donc tu penses qu'à ta gueule, nous on fait comment? Nous on a du bétail, on a besoin de vivre, on a besoin de le vendre, on a besoin de que les gens en mangent pour pouvoir exister. Vous voyez bien que dès l'instant où vous dites mangez moins de viande, vous portez atteinte à quelqu'un qui dont le métier est d'être éleveur et qui ne vit que de ça. Vous n'allez pas lui expliquer que il faut revenir en arrière de X années, c'est trop tard.
Je suis pas là-dedans. Mais je crois simplement qu'il y a quand même des politiques publiques qui sont là pour accompagner, pour prévoir déjà. Le problème des politiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne prévoient rien. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils suivent le mouvement.
Ils subissent les lobbies.
Ils suivent les lobbies. Ils sont énormément dans le faire semblant. hein, qui est une aujourd'hui une caractéristique un peu du système politique dans lequel on est. Et donc, je sais pas, moi, je me souviens justement quand je suis sorti des affaires il y a 25 ans, je me suis dit, en fait, on va à la catastrophe écologique, dans la façon dont on se comporte. Et je suis pas un génie. Les politiques à ce moment-là disaient, moi je me souviens du truc de Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs, mais ouais. Il a continué à regarder ailleurs.
Ou de René Dumont en 74 qui était un lanceur d'alerte.
Président. Ouais. Donc ouais. Il a eu cette phrase prophétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Parce que effectivement, on le voit bien, les lobbies. En fait, si vous voulez, Bayer Monsanto a plus de pouvoir.
L'industrie pharmaceutique.
Chimique et
pesticides.
Que ne l'a notre ministre de l'Agriculture, dont je ne me souviens pas du nom, mais je crois Béchu, c'est ça.
Oui, mais c'est
oui, l'écologie, Béchu.
Si vous allez par là.
Oui, pour l'agriculture, c'est Marc Fesneau.
Apple, Microsoft et tous les GAFAM ont beaucoup plus de pouvoir que tous les présidents des démocraties réunies.
Mais alors là, vous touchez un point qui est intéressant, c'est que quand vous discutez avec ces gens-là, ils vous disent que l'État ne sert à rien. Donc ce sont des libertariens, c'est-à-dire des ultra libéraux qui pensent que l'État ne sert à rien, que payer des impôts ne sert à rien. D'ailleurs, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui aussi dans le monde, c'est qu'on a cette industrie du numérique totalement florissante qui fait des profits records, mais qui refuse de payer des impôts, donc qui passe à travers des offshore, enfin des sociétés écrans, des
machins. Ou par des amendes qui seront toujours moins élevées que les impôts qu'ils auraient
voilà,
dû payer.
Qui payent beaucoup moins d'impôts que vous et moi, nous tous ici, on en paye. Et donc, qui trouvent que, de toute façon, à terme, la question politique sera réglée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, on sait très bien, par exemple, qu'il y aura... Je crois que à peu près tous les chercheurs sont d'accord sur le fait qu'il n'y aura plus de magistrats dans 50 ans. L'intelligence artificielle gérera tous les dossiers et beaucoup plus vite aujourd'hui que des magistrats qui sont pris par des procédures. Tout ça rentrera
dans des algorithmes. Vous êtes extrêmement défaitiste et sombre dans votre... dans votre analyse.
Oui, un peu, oui, quand même. Mais c'est mon rôle. Moi, je suis pas essayiste par nature.
Je sais pas si c'est votre rôle, mais
je suis romancier. Ouais. Et je vois un monde qui est un monde que je dois expliquer à mes enfants, à mes 4 enfants et à mes 5 petits-enfants, et leur dire ça va pas être simple, Coco. Voilà. On en est là.
Est-ce que vous leur pointez du doigt une petite lumière qui pourrait être au bout du tunnel en disant il y a quand même une solution?
Oui, mais moi je vois par exemple avec mes enfants, j'en ai un qui a été petit totalement addict aux écrans. Et à l'âge de 10 ans, un jour il vit au Maroc. Donc un jour il vient pour les vacances et il vient me voir et je lui dis mais t'as pas pris ta tablette. Il m'a dit c'est fini tout ça rend fou. Et depuis
de lui-même. Ouais.
De lui-même, il a tout arrêté.
Quel a été le déclic?
Et il a totalement... Je sais pas. Il a senti que ça le submergeait.
C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de parents qui attendaient la solution, là, quand vous avez commencé.
Il a vu une interview de son père, il a dit j'en peux plus.
Il a dit oui, c'est ça.
Ah, j'en peux plus.
Exactement. Mais c'est intéressant parce que, sur mes 4 enfants, il n'y en a aucun qui est là-dedans, en fait. Mais c'est pas parce que je leur ai seriné quoi que ce soit, puisqu'en plus, il y a des grandes différences d'âge et tout ça. Mais simplement, ça les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que la vie est ailleurs que d'être derrière un téléphone, d'aller voir les photos de vacances, de machin.
Pour sa santé mentale, c'est plutôt pas mal d'en être éloigné, ouais, je crois.
Oui, c'est
surtout incroyable.
Alors après, toute évolution technologique a des avantages. Je suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle, c'est nul. Que le téléphone c'est nul, mais pas du tout. C'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant de se dire mon fils le dernier a un téléphone et s'il a un problème avec le bus scolaire à 15 bornes de là et qu'il reste pas au milieu de la route. Donc
ça sauve des vies aussi.
Oui, mais bien sûr, la question n'est pas de nier l'évolution
technologique. Le progrès scientifique.
La question c'est que derrière des évolutions positives se cachent des évolutions négatives qu'on nous cache au sens où on les met pas en avant. C'est-à-dire, on nous dit pas, ouais, vos enfants, ils seront aveugles. Parce que les gamins, moi, quand je parle avec des ophtalmos et des grands, dont un qui a opéré quelqu'un de très important au plus haut niveau de l'État, il me dit, si ça continue comme ça,
les écrans vont rendre tout le monde aveugle.
Les gamins d'aujourd'hui seront soit hyper myopes, soit aveugles dans 50 ans.
Le problème de la lumière bleue.
C'est grave quand même. Ouais.
Alexis Rossignol.
Tout à l'heure, vous avez évoqué donc la théorie du ruissellement, le fait que l'argent, les bénéfices pourraient être mieux répartis. Mais je ne comprends pas en quoi le fait que les salariés gagnent plus d'argent freinerait finalement la marche du monde et la consommation, etc.
Ben non. Là, c'est clair que c'est une question de
qualité de vie, mais non, pas.
C'est plus une question d'égalité,
d'équilibre,
d'équilibre.
Mais en soi, ça
là aujourd'hui, c'est quand même dément de voir les résultats des sociétés du CAC 40 qui ont été publiés là il y a pas si longtemps, et de voir que moi je vois des gens dans ce qu'on appelle en France la province profonde, c'est-à-dire dans les Cévennes par exemple, des amis qui me disent avant on finissait le mois avec 200 euros d'avance, maintenant on finit avec 200 euros de retard et on est à découvert 200. Donc mais ça c'est, je veux dire, les gens le vivent ça, et c'est absolument pas normal.
Non mais le raisonnement d'Alexis est cohérent, et de dire que si tout le monde avait plus d'argent, il y aurait plus de consommation.
C'est ce qu'on voit dans les pays émergents où il y a une classe moyenne qui justement peut acheter et consommer, et son rêve, c'est justement d'atteindre le niveau de vie qu'on a nous.
Et même Alexis, toi tu rêves d'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus d'ultra riches.
Oui, voilà,
et de plus en plus de pauvres pour moins consommer.
Mais que les gens pauvres consomment plus, c'est pas là qu'est la question.
C'est parce qu'ils sont plus nombreux.
C'est les pays riches. Là, j'ai vu une statistique, je crois que c'était sur France Inter. Chaque Français, cette année, a acheté 48 vêtements. 48 vêtements.
T'as pas, Alexis.
C'est un petit peu exagéré, quand même. C'est peut-être un peu exagéré.
Mais Nordine compense.
Moi, j'en ai pris 50.
Non, mais chaque Français.
La moyenne, pardon.
Ouais, j'ai pas dit chaque Français.
Non, non.
J'ai dit chaque Français, mais c'est général. La moyenne des Français, ça a été.
Totalement inutile.
48 vêtements. Donc.
Avec un peu de chance, c'est de la fast fashion.
Mais je pense que ça pose
des questions. Il y a la fast fashion aussi qui vient.
Moi, maintenant, j'achète qu'une chaussette à la fois.
On continue d'en parler jusqu'à midi et demi.
Et un an sur deux.
Et tout à l'heure, le docteur, le professeur Laurent Carilla sera notre invité sur les addictions, justement. Comment les déjouer, ces addictions, et conserver le plaisir. Alors, parmi les addictions, je te rassure, Lisa, on évoquera le sexe et l'alcool, Laïla. Mais il y a aussi le problème avec les écrans. Avec les écrans, ça sera dans quelques instants. Mais d'abord, voici Nordine.
Ça, c'est gratuit. Ça.
Total, mal perdu.
Salut, vous allez bien?
Oui.
Bonjour. Ça va très bien. Écoutez, moi, je vais bien. Là, c'est une période particulière pour moi. Je suis en plein Ramadan. C'est une belle période, je trouve. C'est spirituel. C'est une belle période. On essaie de se rapprocher de la meilleure personne qu'on puisse être pendant un mois. Ce qui confirme que pendant les onze autres périodes, on est loin de cette personne. C'est une période compliquée parce que moi, je me suis rendu compte que je suis loin de mes péchés, et j'ai un péché durant toute l'année que j'arrive pas à enlever de ma personnalité. C'est que moi, je suis un menteur. Ouais. Moi, je suis un menteur, mais je suis pas un menteur cool, je suis un menteur pour des trucs nuls, quoi. Moi, je suis un menteur sans viande, moi, je suis un menteur, je mens juste pour me rendre mystérieux. L'autre jour, il y a une meuf, elle me dit, t'es où? Je dis, je sais pas. Elle me dit, tu fais quoi? Je dis, t'inquiète, pose pas de questions. Puis je me suis posé des questions sur pourquoi j'étais comme ça, et en fait, le Ramadan, c'est une période qui nous change. Par exemple, un truc tout bête, moi, je suis pas un bagarreur. Et pendant le Ramadan, on peut pas s'embrouiller avec les gens parce qu'il faut rester positif, faut rester dans la paix. Et j'ai assisté à une bagarre pendant le Ramadan qui avait une notion incroyable, c'est-à-dire que j'ai vu deux personnes s'embrouiller, et les deux faisaient le Ramadan, ils pouvaient pas s'embrouiller, ils pouvaient pas se taper. Et ils se sont dit une phrase que tu peux entendre que pendant le Ramadan. Le gars lui a dit, hey, attends le crépuscule. Je sais pas si vous réalisez le sens de cette phrase. À quel moment tu menaces des gens en utilisant le mot crépuscule? C'est des menaces de cow-boy, ça, tu vois. À la rigueur, quand tu dis crépuscule, normalement, tu portes un chapeau et des Santiago. Il n'y a pas de TN ou quoi. C'est drôle. Tu peux pas te battre avec quelqu'un qui fait des alexandrins, c'est pas possible. Tu vois, au début, tu t'embrouilles, après, tu dis, mais il parle trop bien, je peux pas me battre avec lui, tu vois. Non, c'est une période vraiment particulière où on essaye d'être gentil avec les gens. Et le plus dur pendant le Ramadan, c'est pas le fait de pas manger ou de pas boire. C'est, je pense, de parler avec des gens qui ne font pas le Ramadan. Parce que du coup, le bruit le plus dur à entendre, c'est pas le fait que ton ventre gargouille. C'est Kevin qui hurle, waouh, même de l'eau, c'est chaud. putain, moi, je sais pas comment je pourrais faire. Bah, c'est marrant parce que je t'ai pas demandé, Kevin. C'est vraiment une période particulière. Il faut beaucoup d'énergie pour répondre aux gens, pour pas boire. Mais il y a un truc qui est stressant, c'est qu'il y a souvent des polémiques autour de ça. Là, il y en a une récemment avec l'équipe de France qui est accusée de discrimination religieuse. Elle conseillerait fortement à ses joueurs de reporter leur jeûne après le rassemblement. Mmh. Moi, ma question que je me suis posée durant cette polémique, c'est comment ils font pour vérifier si les joueurs, ils ont mangé ou pas.
Ouais.
Et je me suis imaginé Didier Deschamps qui va dans les vestiaires juste avant le match et qui leur dit hop, 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 hop. Ousmane, une cuillère pour papa. Il prend. Et après, c'est terminé. En tout cas, moi, je fais le ramadan. J'ai envie d'en parler aujourd'hui et j'ai quand même très faim. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée.
Au crépuscule. Merci, Marie. Et il est où et quand, Nordine ?
Du jeudi au samedi, au Palais des Glaces de Paris.
On va parler de musique avant de recevoir le professeur Laurent Carilla. Vous, vous employez le terme d'addiction sur les écrans ?
Oui.
Marc Duguin ?
Oui, je pense que c'est... Enfin,
c'est comparable à une drogue pour vous, non ? Mais
bah, je pense qu'il y a des gens qui sont totalement drogués. Et je vois même autour de moi quand même, des gens qui ne sont pas réveillés, ils n'ont pas un œil ouvert.
Ouais.
Déjà, ils se téléphonent au cas il y aurait... Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le téléphone, moi qui suis d'une génération où il y avait déjà le téléphone quand même, hein, pas celui-là, mais il y avait
le smart date de 17 ans, mais il y avait Radiocom 2000,
les portables
dans les années les années 90, il y avait des gros appareils qui étaient téléphones portables.
Ça fonctionne énormément sur l'anxiété en fait. Le téléphone.
Bah, c'est comparé à un doudou.
Un message. Ça arrive souvent que je reçois un message. Et ma femme me dit, mais tu regardes pas? J'ai dit, non, je regarde pas. Parce qu'on me sonne pas. Voilà. Je regarderai quand j'ai envie de regarder, mais j'ai...
Surtout que c'est insultant pour la personne qui est face à vous, c'est qu'en fait, il y a un message qui arrive sur votre téléphone, vous le dites dans le bouquin, et tout d'un coup, la conversation physique en présentiel avec quelqu'un devient secondaire par rapport au téléphone.
Exactement.
C'est rageant, quand même.
C'est nounou pour beaucoup de couples aussi qui donnent une tablette à l'enfant pour être tranquille à table en disant que ça, l'enfant aura un
mais
casque.
Mais on a tous vécu ça, c'est-à-dire des dîners, des déjeuners, comme on dit, en présentiel, tout ça, et personne n'est là. Et moi, ça m'est arrivé de gueuler à table en disant mais il y en a marre quoi, rentrez vos téléphones ou bien je me barre et je vais me balader. Mais
dites-donc Marc, vous gueulez à table, vous gueulez au réveil, hein, vous êtes pas très
agréable. C'est sympa de manger avec lui.
Vous avez une addiction vous?
À la radio,
à l'écriture, oui. Oui. Mais si j'écris pas, ça, je me sens pas très bien. Alors je sais pas si c'est une addiction physiologique, mais je pense que c'est une addiction quand même cérébrale.
La musique dans la vie de Marc Duguin, vous qui signe, je le rappelle, l'orgie capitaliste chez Alary Édition. Vous écoutiez en 98. Dire Straits, Sultans of Swing. Et d'ailleurs, dans sa vie, que se passait-il?
C'est votre premier roman, en 98, Marc Duguin, La Chambre des Officiers. On en a déjà parlé, inspiré de la vie de votre grand-père. Gueule cassée de 14-18, avec qui vous avez passé beaucoup de temps, enfant. C'est pas rien, enfant, de voir des hommes défigurés. Des hommes différents. Qu'est-ce que ça fait de l'adulte que vous êtes devenu ? Vous êtes confronté à ça très tôt ?
En fait, je pense que c'est la chose qui a déterminé en fait mon existence depuis 25 ans. C'est-à-dire que j'ai eu ce déclic. Évidemment, j'avais déjà vécu ça. Bon, le traumatisme, il était là, puisque j'ai passé toute mon enfance avec des gens défigurés. Et je pense que toute ma conscience politique, toute la façon, peut-être un peu déprimante, comme disait Nagui tout à l'heure, que j'ai de voir le monde, vient de là. C'est-à-dire que j'ai vu l'horreur. En fait, c'est très particulier. Quand vous êtes un môme de 10 ans, vous êtes à table, il y a 100 personnes, et ils sont tous défigurés. Mais quand je vous dis défigurés, c'est une horreur absolue. Et sur le moment, quand vous êtes môme, il n'y a pas de problème. Mais ensuite...
Parce que c'est la norme.
Ça remonte. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, alors que j'étais pas du tout dans la littérature, j'avais pas fait des études de lettres, j'avais fait des études des mathématiques financières, moi, donc j'étais pas du tout là-dedans, et que d'un seul coup, j'ai eu besoin d'écrire ce livre, parce que sinon, je sentais que les choses n'étaient pas à plat. Et après, évidemment, toute ma lecture géopolitique du monde vient d'un, c'est-à-dire je sais pas si on en parlera, mais la légère antipathie que j'ai pour Poutine, par exemple, évidemment.
Elle
vient de là aussi. C'est-à-dire que j'ai vu ce qu'est, sans avoir moi-même fait la guerre, j'ai vu ce que c'était que la guerre,
en fait. Alors, avant d'aller en Russie, on va aller aux États-Unis, puisque vous écoutiez en 2005, les Doors, avec ce titre rempli de bonheur,
ouais, de c'est la vivre. Fin.
Qui était la BO d'Apocalypse.
C'est joyeux.
Ah ouais. Là, on est plutôt aux États-Unis, Leïla.
Avec la malédiction d'Edgar, le portrait de Hoover, le patron du FBI, entre 1924 et 72. Vous racontez dans un précédent livre comment ce bouquin-là vous a permis de continuer à entretenir le dialogue avec votre père. Parce qu'il y a de ça aussi dont il est beaucoup question dans votre travail, Marc Dugain.
Oui, parce qu'il y avait... à la fois à cause de nos origines et puis de l'esprit de mon père, il y avait une forte proximité de ma famille avec les Kennedy. Au sens, pas à part, on se connaissait pas, hein, évidemment, mais mon père était un grand admirateur de Kennedy. Et très très jeune, j'ai commencé à faire des recherches, à travailler. Quand j'étais à Sciences Po, par exemple, j'ai bossé énormément sur l'assassinat des deux frères. Ça a été pour le coup un hobby, un vrai hobby. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une nouvelle info, à partir du moment où j'ai écrit, évidemment, c'est devenu un sujet. Et j'ai hésité à aller d'abord sur l'assassinat de Robert Kennedy, qui était une de mes grandes passions. Et je me suis rendu compte à quel point Hoover était important. C'est-à-dire ce personnage de l'ombre terrifiant. Et donc j'ai écrit ce livre dans une retraite totale. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai écrit avec personne autour de moi pendant des semaines et des semaines sans parler à personne. Et c'était une expérience très intéressante.
Et après les gueules cassées, c'est vrai que passer au visage de Kennedy qui était très beau, très, je pense que ça doit faire des vacances aussi, non?
Oui, les deux frères,
il y a quelque chose. C'est vrai, violence. Mais tu vois, mais parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on a dit que ça avait ces gueules cassées, ça a un peu configuré votre rapport au monde, mais c'est aussi ça a déclenché aussi chez vous des tocs.
Ah ouais, moi j'avais des tocs terribles quand j'étais môme. En particulier, je ne pouvais pas. Alors ça paraissait bizarre parce que je pouvais pas passer devant une glace, une porte vitrée, un miroir, n'importe quoi sans me regarder pour être sûr que mon visage était toujours là. Donc c'est bizarre, un môme de 10 ans qui passe son temps à se regarder dans les... Et bon, ça
enfin,
peut pas passer. Hein,
mais... Kennedy a fini en gueule cassée, malheureusement, avec cet attentat. Ah,
oui.
On est en 2007 et vous écoutiez Shostakovich. Et justement là, vent debout contre Poutine.
Absolument, une exécution ordinaire inspirée par le naufrage du sous-marin russe Kursk. Et forcément, dans le viseur, il y a Poutine et ça vous vaut des inimitiés avec le régime russe, Marc Dugain.
Oui, évidemment, bon, j'ai fait une enquête quand même assez longue et assez approfondie en terre russe pour cette histoire qui a vraiment révélé pour moi qui était Poutine, en fait. Et à un moment où, très honnêtement, quand on parle des milieux diplomatiques français, les gens disaient, ouais, Poutine, on arrivera toujours à se mettre d'accord avec lui, il y a du pétrole, il y a du gaz, donc on arrivera toujours à trouver... Et je pense que l'horreur du personnage n'était pas si claire que ça. Et moi, je l'ai découvert par le fait qu'il ait laissé mourir les survivants du Kursk, qui étaient... qu'on aurait pu très très facilement sauver. J'ai vu leurs cadavres à la morgue de Moscou. Enfin, ça a été très éprouvant émotionnellement, en fait, tout le travail d'enquête que j'ai fait pour ce livre. Et ensuite, effectivement, quelques années plus tard, Frédéric Mitterrand, qui vient de mourir malheureusement, m'appelle un jour et me dit « Écoute, je voulais emmener des écrivains français dans un voyage officiel de ministre de la Culture en Russie, et j'ai pensé à toi, et ils m'ont fortement recommandé de pas t'emmener. » Bon, alors il se trouve que j'ai aussi beaucoup écrit, après j'ai fait beaucoup d'articles contre Poutine pour essayer de réveiller les esprits sur qui était ce personnage. Et donc aujourd'hui, oui, c'est pas là que je passe mes vacances, c'est clair.
Professeur Laurent Carilla nous a rejoint. Bonjour, bonjour professeur. Vous signez Addict ou pas, pour déjouer les addictions, conserver le plaisir. Alors vous évoquez l'alcool, le sucre, le sport, les écrans, le ouais. sexe. D'abord, est-ce qu'on peut mettre toutes ces addictions sur le même rang, ou est-ce qu'il y a une échelle?
En fait, l'idée du livre, c'était de partir de tous nos comportements de base et comment ils peuvent devenir excessifs et pour certains devenir addictifs. Et heureusement, tout le monde ne devient pas addict, mais on peut devenir addict à tous nos comportements de base, c'est-à-dire manger, boire, faire l'amour, être amoureux, etc. Et tout ce qui est généré par les écrans et non l'écran. C'est ça le...
Alors parlons des écrans, c'est le sujet d'abord de la journée complète sur Inter. Il y aura Jérôme Cadet pour le 13-14, la Terre au carré de Mathieu Vidard tout à l'heure sur le thème des smartphones, Zoom Zoom Zen aussi de Mathieu Noël, et évidemment le téléphone sonne qui devrait changer de nom, je pense, hein, pour ce soir, de
Fabienne.
C'est ça, de Fabienne Synthèse. Pour en revenir donc à ces addictions et à l'écran, le danger de l'écran. Tout à l'heure, on évoquait presque cet écran comme une sorte de doudou, c'est-à-dire qui rassurait sur l'information. C'est vraiment ce rapport que l'on a.
C'est un nid doudou. Moi, j'appelle ça un nid doudou. C'est une extension narcissique de nous-mêmes. C'est-à-dire que on a tous un smartphone. Regardez, vous avez tous un smartphone posé à côté de vous. C'est votre objet de réassurance. C'est comme le doudou du petit enfant, quoi. Donc, on est rassuré. On peut tout vérifier. On peut avoir tout ce qu'on veut en un temps minimal. Donc oui, et je crois qu'il faut pas diaboliser les smartphones, moi.
Ah bon?
Non.
Alors comment les maîtriser si
c'est
on
ça,
les...
c'est plutôt comment les réguler.
Ouais.
Et le problème, c'est que il y a la génération des digital natifs, tous ceux qui sont nés avec les écrans, eux, ils manient l'écran absolument parfaitement. Et il y a les adultes et les seniors qui se sont adaptés. Les seniors ont une consommation hyper importante d'écran. Et en fait, c'est devenu un outil indispensable. Et le problème, c'est où est le problème? Il y a des gens qui ont un usage problématique. Oui. On parle pas d'addiction aux écrans, ça veut rien dire. C'est comme on parle pas d'addiction au sucre, c'est l'addiction alimentaire. Donc l'addiction aux écrans, ça veut rien dire. C'est on a ce smartphone qui est une matrice intermédiaire. Finalement, c'est notre doudou. Et derrière, on va consommer, je sais pas, du réseau social, des paris sportifs en ligne, du sexe en ligne, etc. etc.
Alors quel conseil vous donnez justement pour réguler ça, pour faire déjà ce petit pas en arrière?
En fait, il y a déjà le modèle parental, c'est-à-dire que si dans la famille, tout le monde consomme n'importe comment le smartphone et que les parents, sont tout le temps scotchés sur leurs écrans, etc., ou font même du média multitâche, c'est-à-dire, je suis sur mon smartphone, j'ai la télé allumée, ça c'est un comportement
carrément
qu'on voit.
Ouais.
Et en fait, les ados vont faire pareil, ils vont dire ça s'appelle le modeling, c'est-à-dire je vais faire exactement comme les adultes. Et moi en plus
je vais jouer au grand.
Moi je suis digital natif, je suis plus fort que toi.
Oui.
Tu peux me mettre un contrôle parental, moi je vais le contourner. Tu peux me couper internet.
C'est vrai en plus.
Je trouverai un réseau wifi.
Et quand on est le parent,
Ouais.
Quand on est soi-même le rôle modèle en fait.
Ouais.
Comment
il faut réguler son temps, et sa consommation d'écran, et il y a des moments où il ne faut pas qu'il y ait de smartphone, ou d'écran ou d'une tablette, etc., sur des moments forts de la journée, c'est-à-dire au repas, à table ou le midi à table dimanche, je dis n'importe quoi. Là, il y a pas d'écran. Il y a pas d'écran dans les chambres aussi quand on est petit.
Jusqu'à quel âge?
C'est collège à peu près. Collège à peu près, parce que ils commencent à avoir tous des
12 ans.
Ouais, c'est ça, ils commencent tous à avoir des tablettes pour travailler.
Enfin, normalement, avant 12 ans, on n'a pas de portable.
Ouais, ça, c'est plus vrai.
Ça dépend d'où tu vis.
Là, maintenant, c'est CM1, CM2. Je sais plus si on dit CM1, CM2. Moi, je suis devenu...
Si, je crois.
Ouais, ça, on dit toujours ça. ils ont les smartphones. Les parents disent, tiens, t'as un smartphone, on va savoir où tu es.
Ouais, ouais.
Tu rentres à quelle
heure? Alors, justement...
Ne pas servir du téléphone comme réveil, par exemple.
Alors, on peut servir comme réveil, mais en mode avion.
Oui, mais du coup, on prend tout de suite le téléphone le matin, et on l'éteint, et on est au contact avec le téléphone.
Plus on est jeune, plus il faut pas donner le smartphone. Moi, mes enfants, enfin mes fils, ils utilisent les écrans, etc. Mais eux, ils avaient pas d'écran dans les chambres jusqu'à la période du Covid à peu près. Et ils régulent.
Ouais. Mais comme vous l'avez dit, c'est aussi une source de sécurité, de savoir où il est, à quel moment. On a résolu des affaires dramatiques judiciaires.
Oui, mais avant, on arrivait à en résoudre et les enfants n'étaient pas plus perdus.
Peut-être pas autant.
Non, mais là, les enfants sont pas perdus. Je crois vraiment qu'il faut vraiment une vraie campagne. Et là, il y a le plan gouvernemental qui travaille sur... Enfin, le président a demandé à une équipe de travailler sur l'histoire des écrans. Je crois qu'il faut revoir les idées de réguler, les idées de l'addiction, ça n'existe pas aux écrans. L'addiction, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. C'est je vais être sur TikTok non-stop, parce que tous ces réseaux sociaux aussi utilisent des stratégies de neuromarketing pour que vous restiez scotché dessus. Et donc, on peut se dire, je suis comme si j'étais un addict, quoi.
Oui, ce qu'il y a de pire, ce sont les algorithmes. C'est-à-dire que, en fonction des recherches ou de ce que l'on dit, on a tous vécu ça, et c'est évoqué, Marc Duguin, dans votre livre, dès l'instant où on parle de quelque chose autour d'un smartphone posé sur une table, on reçoit des publicités quelques minutes ou heures après en disant « Alors, vous voulez acheter ça, vous aussi, ça vous intéresse ». Ça veut dire qu'on est donc écouté, ça on le sait, on est surveillé, on le sait, et les algorithmes nous renvoient l'image du monde idéal, c'est-à-dire un monde qui nous ressemble et qui est exactement, qui correspond à nos besoins et à nos demandes.
Mais regardez, sur TikTok, c'est la stratégie cognitive de laboratoire, comme un petit rat, des petites souris dans un labyrinthe. La souris, elle va explorer le labyrinthe, et à un moment, elle va trouver ce qu'elle doit trouver. En fait, TikTok ou d'autres réseaux, mais TikTok surtout, moi j'ai beaucoup bossé sur l'histoire de TikTok, c'est que chez les jeunes, qu'est-ce qui les attire? C'est des vidéos de gens qui dansent avec de la musique. Et tout le monde, peu importe la langue, ça fait des millions de vues, des milliards de vues, parce que tout le monde peut répéter ce truc-là.
Là, c'est la vacuité poussée à son extrême.
Mais on est comme des petits rats de laboratoire.
Ok. Ça vous dérange pas de rester avec nous? On a encore plein de questions à vous poser, mais d'abord, on a des nouvelles du monde, ça c'est une bonne information. Monsieur Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous.
Salut.
Bonjour.
Aujourd'hui, la Suisse, messieurs, dames. Ce pays qui exporte des montres haut de gamme et des humoristes, que nous on embauche comme si on n'en produisait pas assez sur le territoire.
Jaloux. Ouais.
Ils sont en guerre contre la Russie, les Suisses? Non, je crois pas. Hein. Est-ce qu'on est censé les soutenir? Je crois pas non plus. Et les Belges, pareil. Ils vont craquer un jour, les humoristes français. Et le jour où ils bloqueront le périph' avec leur scooter 125 et leur casse Momo... Ouais, bon, ben les gens s'en rendront pas compte. Mais quand même, je préviens. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les Jeux Olympiques. Quoi encore? Mais Tanguy en a déjà parlé. Mais de quoi il a pas déjà parlé, Tanguy? C'est pour ça que la moitié de l'équipe le déteste. À savoir que l'autre ne se prononce pas. Moi, je parle des JO parce que j'ai lu cette semaine...
C'est horrible.
...dans le journal Le Temps.
C'est gratuit.
La merde,
oui, ben, on peut t'entendre. Cette semaine, dans le journal Le Temps, en Suisse, j'ai lu qu'un journaliste se demandait si les Français allaient bien finir par se réjouir de leurs Jeux Olympiques, ou s'ils allaient continuer à se plaindre jusqu'au dernier moment de tous les impacts négatifs des JO. Ce genre d'article montre bien que les étrangers ne nous connaissent pas. Évidemment qu'on va continuer à se plaindre. Mais c'est parce que se plaindre en France, c'est pas comme se plaindre ailleurs, en fait. Moi, je pense qu'il y a une plainte à la française. Ici, la plainte, c'est pas émotionnel, c'est stratégique, pour pas être déçu. Démonstration. Si on dit que les JO vont mal se passer, et qu'effectivement, ils se passent mal, eh ben, on aura eu raison. Donc, on sera content d'avoir eu raison. Stratégie gagnante. Si les JO se passent bien, on sera agréablement surpris. Donc, on sera content de s'être trompé. Stratégie gagnante aussi. C'est pour ça que quand je viens faire une chronique ici, je me dis toujours que je vais la rater, ou que vous allez m'interrompre. Et je rentre chez moi content, systématiquement. La plainte à la française, c'est une plainte de confort aussi. C'est du small talk facile en cas de besoin. Les gens se lèvent le matin, ils écoutent la radio, ils regardent la télé, ils voient quelle est la polémique du jour, et ils se disent « Allez, je vais y aller de ma petite phrase, moi aussi ». Mais en réalité, ils s'en foutent un peu. Là-dessus, il y a 2-3 médias qui entretiennent le truc pendant une semaine ou deux, mais si on arrêtait de les regarder, une polémique sur deux, ça passerait pas de jour. Voilà, d'ailleurs, c'est pas un peu ce que vous dites, ça, Marc Duguin, dans votre livre? Un petit peu, je crois. Je le dis parce que quand je cite un auteur dans mes chroniques, ensuite sa carrière décolle. Et vous m'êtes agréable. Faut dire que c'est une chance de pouvoir se plaindre, en fait. Hein. Un peuple qui se plaint, c'est un peuple qui vit, qui est pas tout à fait asservi, qui a gardé son esprit d'initiative et critique. Au lieu de se demander pourquoi les Français sont jamais contents, le monde entier devrait se dire « Ces Français, quel peuple admirable !» Ils ont tout et ils continuent de se plaindre tout le temps. Et ça montre bien que, malgré tout ce qu'ils ont réussi à avoir, l'âme de Victor Hugo est toujours en eux. Est-ce que c'est pas ça, finalement, faire nation ? Avec des analyses comme ça, je me demande pourquoi je fais pas la matinale, moi.
Ouais, c'est vrai.
C'est là qu'on réalise que tout avoir, c'est avant tout une opportunité magnifique de nous plaindre de plein de choses. Il y a des pays dans lesquels ils ont tellement rien qu'ils pensent même plus à se plaindre.
Ouais.
Je suis allé à Cuba il y a quelques années. Là-bas, les gens attendent le bus pendant 4 heures. Ils savent qu'il doit passer entre 10h et 14h. Et c'est tout. Ils sont là, en plein canière, assis sur leurs talons, avec des bananes et un fond de bouteille d'eau un peu douteuse, et ils disent rien. Et quand le bus arrive, en fait, c'est une bétaillère, avec déjà 2 vaches dedans. Et est-ce que quelqu'un se plaint? Non, parce que le prochain bus, il passe entre 16h et 2h du matin. Et c'est un triporteur auquel il manque une roue, conduit par un aveugle. Voilà. Alors pour finir, il y a une chose aussi que les étrangers doivent savoir, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que les Français, pour le moment, plus que de s'en plaindre, ils s'en foutent des JO. C'est vrai, les médias en parlent, les Parisiens en parlent un peu, mais l'immense majorité des Français, les autres, là, les 56 millions qui vivent au-delà de l'Île-de-France, bah, je vous lâche un scoop, ils s'en foutent. En fait, en France, on est des stoïciens, on est détachés des émotions perturbatrices. Les JO, ça viendra quand ça viendra. Mais faut pas tenter de nous rendre heureux artificiellement 6 mois avant le début des Jeux. Parce qu'on voit le truc venir et ça nous énerve. En revanche, au moment venu, ben on sera là, faut pas s'inquiéter. On regardera ça à la télé comme tous les 4 ans. Comme tous les 4 ans, on apprendra le nom des finalistes du 100 mètres 1 heure avant la finale. On sera dans le canapé avec des chips. Si quelqu'un fait du bruit dans la maison, on dira « Vogel, il y a le 100 mètres !» Il y en a bien un qui dira « Les Noirs, il n'y a pas à chier, ils courent quand même plus vite que nous. » Puis ce sera parti pour 9 secondes 70 à encourager un type qu'on aura choisi par sympathie pour son pays ou parce qu'il est à peu près sûr de gagner. Une fois la ligne franchie, il bombera le torse, il fera un tour de piste avec son drapeau. Puis après, les gens se retourneront dans leur jardin, profiter d'un peu de fraîcheur après une journée à crever de chaud. Voilà, parce qu'on va bien se taper une canicule encore cette année. Et pour le coup là, on aura bien raison de se plaindre. Allez, bonne journée.
Merci Alexis Le Rossignol.
Sur scène, Alexis. Le 25 avril, figurez-vous qu'il va à Genève. Alors c'est bien de critiquer les Suisses, mais quand faut aller prendre leur pognon, il y a du monde.
Mais c'est un peu comme le professeur Laurent Carilla qui critique les smartphones, mais qui a envoyé des textos pendant que...
connecté.
Exactement.
Ouais, ouais. Il sera à Paris.
Je suis connecté.
On va en parler. Il sera à Paris à la Gaîté Montparnasse à partir de septembre, et ce soir à Amboise.
Tu parles d'Alexis Le Rossignol. Ah
ouais, non, Laurent Carilla aussi.
Tanguy Passiro, de quoi vas-tu parler? Et donc Alexis en parlera la semaine prochaine.
Je vais vous parler d'un sujet dont tout le monde se fout, les JO, notamment l'uniforme des bénévoles. Vols pour les JO 2024, qui est une forme de crime, Nagui, contre le bon goût.
Marc Duguin est notre invité, il signe chez Alary Édition, l'orgie capitaliste, il est avec nous jusqu'à midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bonjour. Avec Leïla, Kadoboudadi, Lisa Delmoitié, Nordine Ganso, Alexis Le Rossignol, Tanguy Passiro, Daniel Morin, et nos invités, Marc Duguin et le professeur Laurent Carilla. Marc Duguin signe chez Alary Édition l'orgie capitaliste, où tout n'est pas de la faute des écrans et du numérique, mais quand même, vous pointez du doigt, y compris d'un point de vue carrément démocratique et liberticide, le téléphone, en disant « ça va remplacer nos dirigeants, on n'aura plus besoin spécialement de voter, tout sera dirigé par les GAFAM ».
Ah non, oui, pas le téléphone, les GAFAM en général.
Ouais. Les algorithmes vont tout décider pour nous, y compris la justice, et donc ça met en danger la démocratie et la politique.
Ça pose des questions, c'est-à-dire que, à un terme maintenant quand même assez rapproché, on ne conduira plus. Parce qu'on considère que l'intelligence artificielle, qui finalement est d'une certaine façon une synthèse de nos intelligences, est beaucoup plus fiable que vous, que moi. Donc c'est toujours cette idée que l'intelligence artificielle, donc cette intelligence synthétique de nos intelligences, est plus élevée que l'intelligence individuelle. Et c'est assez vrai, quelque part. Mais après, ça présente un certain nombre de dangers, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les libertariens qui sont à la tête des entreprises du GAFAM, moi, ceux avec qui j'ai discuté, je n'ai pas discuté avec les grands pontes, mais en dessous, l'idéologie est la même, c'est de dire, mais... toutes les discussions politiques qu'on a, on pourrait résoudre ça avec des algorithmes.
Et donc,
ce qui me gêne toujours, c'est le rapport du politique à la technologie. Je suis absolument pas contre la technologie, mais je pense que le rôle des politiques, c'est justement de prévoir qu'est-ce qui va se passer, et non pas d'accompagner le mouvement. C'est de le précéder et donc de planifier.
Alors justement, comment éduquer, comment déjà s'éduquer soi-même, ça sert à rien de jeter la pierre à une nouvelle génération, on est tous dans le même bain, vous avez raison, des ordinateurs, des téléphones, partout. Des tablettes, des écrans partout.
C'est la vie actuelle.
Et comment distinguer cet objet comme un outil et éviter que ça devienne une arme? Ce qui est le cas, pardon, de tous les outils, avec un marteau, on plante un clou et on peut tuer quelqu'un.
Exactement. Bah, il y a la partie écran-travail, il y a la partie écran-hobby. et il y a la partie écran sans contrôle en fait. La partie écran travail, et ben chez les lycéens, les collégiens, maintenant ils ont beaucoup ont des tablettes pour travailler, pour.
Et c'est l'école qui le demande.
Bien sûr,
ça,
ouais. Parce qu'on s'adapte. Ouais. C'est la pédagogie numérique et moi je trouve ça très bien. Nous par exemple, nos étudiants en médecine, ils sont tous maintenant avec des ordinateurs et des tablettes. Ils passent leurs examens sur tablette, donc c'est leur temps de travail. Ils peuvent travailler sur une tablette pour préparer un concours de 8h à 22h. Vous voyez, donc il y a ce côté-là. Bon, là c'est étudiants en médecine. Après il y a le côté écran hobby. Les parents, eux, flippent tout le temps du oh, « tu passes trop de temps sur les écrans ». Mais c'est une fausse variable, en fait. Les vraies variables, c'est qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils fréquentent virtuellement, comment ils se sentent avant, pendant, après les connexions.
Mais là c'est de l'intrusion et on rentre dans l'intimité d'un adolescent. Si on lui dit « qu'est-ce que tu vas voir sur ton téléphone ?», on se mêle de ce qu'il ne regarde pas.
Non, non.
Bah, si.
Il faut donner des messages, par exemple. Je veux dire, il y a quelque chose qui est important. La pornographie en streaming, c'est le nouveau mode d'éducation sexuelle des adolescents. C'est une réalité. Je veux dire, même si on a très peu de chiffres, c'est une réalité. Et c'est un vrai problème, en fait. Et si les parents parlent pas avec leurs enfants des risques de la pornographie en streaming, de ce qu'ils vont voir, s'ils sont pas prêts à voir certains types d'images, enfin ça peut être dramatique. Donc il y a quand même cette éducation. Moi j'insiste sur ça, sur les parents sont modèles. Si on est parent et on donne à son petit, moi j'ai vu ça l'autre jour, enfin on le voit fréquemment, un petit en poussette qui a 2 ans, la mère lui file son smartphone avec des dessins animés, mais c'est sur YouTube, et sur YouTube il y a quand même des pubs, et on sait pas, des fois il y a des choses qui arrivent,
pop-up,
on sait pas
trop, bien sûr.
Donc c'est un peu chaud, ça c'est chaud.
Oui. Il n'y a pas que l'addiction sur les portables, l'alcool, le sucre, ouais. Le sport, le sexe,
ouais, le sexe.
Aussi, tout est évoqué par le professeur Laurent Carilla.
Non, c'est Nagui.
C'est chez HarperCollins. Merci d'être resté avec nous, Laurent. Merci beaucoup. Voici Tanguy Passero.
Je ne sais pas si vous avez vu les uniformes que porteront les bénévoles pour les JO, mais c'est atroce. Je les ai vus, j'ai les yeux qui ont tellement saigné que je pourrais demander un congé menstruel, quoi. Je pense vraiment qu'il faut annuler Paris 2024. On garde juste le moment où Hidalgo et Macron se baignent dans la Seine, au milieu des ragondins, des vieilles bouteilles de cristalline, parce qu'on a besoin de se marrer, et c'est tout. Il n'y a rien qui va dans ces JO. La cérémonie d'ouverture, qui devait être accessible à tous, est devenue un espace VIP. La mascotte ressemble à un clitoris. Les rares qui ont testé les centres d'hébergement des athlètes se sont fait dépouiller en pleine nuit. Et maintenant, on s'en prend aux bénévoles. Être bénévole, c'est un acte fort. Ça veut dire que je vais travailler gratuitement. C'est ouais. Ça qui m'a fait venir de RTL à France Inter il y a 8 ans. Parce que jouer au golf avec Yves Calvis à 20 ans, mais pourquoi le faire à Stade ? Une balle sur deux, c'est une marmotte qui se la prend dans le fion. Non, moi quand je passe devant RTL et que je vois descendre Alex Vizorek de sa Porsche 911, je lui dis « Est-ce que t'étais pas plus heureux à Inter ?» Bon, il me répond non, puis il me donne ses clés pour que j'aille ranger la voiture. J'ai longtemps été bénévole en radio associative. À mes débuts, je faisais de l'antenne juste pour faire de l'antenne. Mais la différence, c'est que j'étais pas humilié par mes employeurs. Les JO, ils vont avoir personne, parce que je vous décris la gamme, je vous décris le truc, c'est atroce. Le magasin Jules de Nevers à côté, c'est la Fashion Week. Pantalon bleu, qui peut se dézipper pour se transformer en short. C'est-à-dire que sur les phases de concentration des sportifs, il y aura toujours un connard qui aura chaud aux jambes et qui fera un bruit de zip. Ensuite, le bénévole aura un t-shirt style marinière. Hein, même dans les crêperies du Finistère, il trouve ça cliché. Mais pire, selon la presse, il s'agit d'une marinière revisitée. Le terme revisité, ça veut dire moins bien. Ouais. Au resto, le plat revisité, en général, est dégueulasse. Et dans l'assiette, il n'y a rien. Vous partez sur une choucroute en vous disant « je vais me faire péter la panse comme un vieux porc ». Le serveur vous apporte une demi-saucisse, même proportion que les statues grecques, avec 30 grammes de chou. Et il vous dit « voilà, choucroute revisitée, on a relevé la saveur naturelle du chou en y ajoutant de la spiruline, du wasabi et de la vanille. Bonne dégustation !» Vous répondez « bah ça y est, j'ai fini en fait. Déjà la marinière, ça te faisait ressembler à Erwan Surcouf, le fils caché du chanteur du groupe Soldat Louis. Mais la marinière revisitée, tu ressembles plus à rien. Ensuite, par-dessus la marinière, il y a une veste sans manches à zip avec des poches explorateur. Le bénévole va ressembler à un colon du 19e siècle. Il manque plus que le casque et la leçon de géo sur le puits de Sancy alors que le cours est à Bamako et on fait la totale. Si dans une équipe africaine, il y a un descendant d'esclaves qui a la rage, mais il va tuer un bénévole. Et enfin, j'ose à peine vous en parler, j'en ai l'élève qui tremble. Le bénévole sera affublé d'un bob multicolore. Un bob, cette aberration que portent en festival les mecs qui se prennent le plus de caisses. Personne de sobre n'a jamais porté de bob. Le bob, c'est l'accessoire le moins sexy de la Terre. En porter un, ça revient à castrer chimiquement tous les gens qui vous entourent sur une surface de 4 km. Les porteurs de bob sont tous puceaux. En Thaïlande, même Francis, qui a 54 ans, se fait démarcher par des touristes pensant qu'il est mineur. Le bob, c'est la fin de la dignité. Ça veut dire, oui, j'accepte d'être le plus proche possible visuellement d'un champignon dans Super Mario. Ryan Gosling vous est fouté un bob et finit dans Camping 4. Mais depuis samedi, jour funeste où la tenue de la honte a été dévoilée. Mais je pense qu'il n'y a plus de bénévoles.
veulent. Ils ont fui à l'étranger. L'immigration s'est inversée. En Libye, ils voient débarquer des centaines de Français par bateau avec des banderoles. Plus jamais ça. Alors, le nom du responsable de ce désastre, il faut citer, c'est Decathlon. Ces infâmes vendeurs de vestes polaires avec poche pour la gourde. Ce sont eux qui ont créé le kit de l'horreur. Il y a même un sac banane dans lequel le bénévole pourra vomir si jamais il croise son reflet dans le miroir alors qu'il porte le bob plus la marinière. Decathlon est parti d'une réflexion toute simple. Comment faire pour que le reste de la France soit aussi mal sapé que nos vendeurs? Et les mecs se sont transcendés. La France, c'était le pays du luxe, de l'élégance, de la mode. Là, le résultat, c'est qu'on va sortir devant le reste du monde 45 000 gugus déguisés en randonneurs bourrés. On a travaillé 18 mois, explique à Ouest France le directeur du design de Paris 2024, qui sera jugé devant une cour internationale.
Oui, bah oui,
évidemment,
oui.
Dès le lendemain des Jeux. 18 mois pour ça. C'est comme si tu venais de dépoter deux gosses à la chaîne et que les deux étaient aussi moches l'un que l'autre. J'ai lu que 200 000 préservatifs allaient être distribués aux athlètes dans le village olympique pendant les JO. Moi, j'ai une autre solution. Foutre dans la chambre de chaque sportif un bénévole sapé par Decathlon. Vous allez voir s'il aura envie de sexe. Hein, le combo Bob plus sac banane, ça aurait même calmé Harvey Weinstein s'il avait sifflé 4 litres de bois bandé. Mais vous vous rendez compte qu'un million de pièces vont être fabriquées par Decathlon. Tous tissus pour rien. D'autant qu'une partie de la production va se faire au Vietnam. Mais ce pays va nous haïr. Le prochain attentat suicide, je le dis à Gérald Darmanin, hein, ça sera une ouvrière du textile vietnamienne qui va regarder un carton rempli de Bob et se dire ces gens-là ne méritent pas de rester en vie. Voilà, c'est donc la fin de la France qui se respecte. Déjà le survêt, j'étais pas pour, à part si on fait du sport, mais là, c'est trop. Alors bien sûr, c'est confortable, mais c'est moche, comme tout ce qui est confortable. Il n'y a pas une personne en costard cintré qui vous dit qu'il va partir sur un grand écart. Mais est-ce l'image qu'on veut donner de la France? 45 000 connards en Bob et un président en mousse-gueg qui se jette à la balle? Eh ben, je crois pas, c'est terminé.
Merci.
J'ai pas vu l'image, mais j'ai déjà peur.
La revanche des puceaux. Le 13 février, sur scène, Tanguy Pastureau, au Grand Cursal, c'est à Besançon.
Marc Duguin signe l'orgie capitaliste chez Alary Édition avec comme lumière, en tout cas, c'est de dire consommons moins, achetons moins la fast fashion, allons moins vite. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça et trouvons une sorte d'équilibre pour mieux vivre ensemble? Mais ce qui fait extrêmement peur, c'est la manière dont ces algorithmes, ces ordinateurs et Poutine, dont on parlait tout à l'heure, peuvent voler les idées, peuvent voler des élections, peuvent les influencer et tuer la démocratie à court ou moyen terme.
Déclencher des conflits chez nous aussi.
Oui. La part qui aujourd'hui dans le numérique fait que c'est extrêmement intéressant et que la guerre numérique elle est déjà là, c'est-à-dire que sur le terrain on n'est pas en guerre avec les Russes, mais la guerre numérique on est en plein dedans et ça sera de pire en pire jusqu'à la création de l'ordinateur quantique à l'horizon 2035 qui permettra de fracturer n'importe quel système, y compris les systèmes d'accès aux dispositifs nucléaires. Il se passe en coulisses une montée. Alors,
je vais rentrer, moi.
Bonne journée à vous aussi. Hein, parce que c'est le jour de l'optimisme.
Oui.
Je bois un coup.
Je peux faire un bisou.
Enfin, d'ici là, il peut se passer tellement d'autres choses, finalement.
Oui, on peut avoir une bombe atomique. Medvedev hésitait entre Marseille, Lyon et Paris. Bon, comme j'habite dans aucun des trois, je me dis que là, enfin, il y a une bonne nouvelle. Non, là, pour le coup, parce que j'aimerais apporter une note d'optimisme.
Oui, s'il vous plaît. Hein,
si vous me permettez, parce que...
Non, on n'a pas le temps.
Merci, allez-y.
Contre programmation.
Oui. Non, je ne crois pas beaucoup au conflit nucléaire. Oui. Tout le monde est un peu dans cette psychose, parce que, évidemment, ça... Je vois pas... Hop.
Vous parlez de Poutine comme un fou qui est âgé et qui n'a plus rien à perdre.
Alors oui, ça c'est un des...
Ça va quand même dans le sens du conflit nucléaire, non?
Ça, si on a... Oui, mais en même temps, il est hypochondriaque. Ah. Il a une peur panique de la mort. Ça se voit d'ailleurs que c'est un type qui a une peur panique de la mort. Et donc, ces gens-là n'ont pas des dispositions exceptionnelles au suicide collectif. C'est à peu près tout ce qui nous protège, parce qu'on n'a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, un type à ce niveau de folie... avec de tels moyens d'armement. On a eu Hitler. Bon, ok, là, on était quand même sur un niveau très élevé. Mais il avait pas la bombe atomique. Staline, quoi qu'on en dise, c'était quand même un système qui était assez... Le système soviétique a toujours été assez collégial, quand même, finalement. Mmh. Peut-être pas sous Staline, mais en tout cas, après, il n'y a jamais eu de... Mais là, c'est la première fois qu'on a un authentique cinglé. Bon, on en a aussi un en Corée du Nord, hein, mais il est moins dangereux parce qu'il est moins bien appareillé. Mais on a un authentique cinglé qui a 7000 têtes nucléaires, ou je ne sais plus combien. Honnêtement, j'y crois pas parce que je pense que
c'était ça votre lueur d'optimisme, c'était ça, voilà, votre moment ça, optimiste. Voilà. D'accord, okay. Je l'attendais.
On la garde.
Marc Duguin signe.
On est bien tombé.
L'orgie capitaliste aux éditions Alary édition. D'autres événements culturels, Leïla.
On va en Allemagne qui vient de retirer 15 000 livres des bibliothèques. Pourquoi, d'après vous?
Faute de frappe.
Je vous donne des indications.
C'est peut-être des choses qui aujourd'hui choqueraient des gens.
Une erreur.
Personne ne les
entendait. Indice du danger de la lecture. Et je vais vous donner un autre indice, le nom de la rose.
Empoisonné.
Ah, c'est bravo Daniel. Salman. Ce sont des livres soupçonnés d'être empoisonnés à l'arsenic. Ils ont été identifiés parce qu'il y avait du verre sur la couverture et sur la tranche, ce qu'on appelle le verre de Paris, un pigment qui était utilisé au 19e siècle pour produire la couleur vert émeraude. Et ce pigment était fabriqué avec du cuivre et de l'arsenic. Donc en humidifiant votre doigt pour tourner les pages, forcément, et en respirant aussi cette poussière, ça peut déclencher étourdissement, crampes d'estomac, diarrhée.
Donc c'était pas volontaire.
Non, c'était pas volontaire.
D'accord.
Mais ça devient finalement et potentiellement cancérigène, donc dangereux pour tous ceux qui vont consulter.
Alors
ces
que
livres.
Le livre numérique,
on a moins de danger. T'as raison, mais après, enfin le
tu lâches
bout.
Tu lâches plus l'écran pour tourner la page.
Est-ce que c'est pas...
On lâche pas l'écran, c'est le doigt, Nagui.
Marc Duguin, est-ce que c'est pas dangereux pour la santé? L'hyperconscience. Aujourd'hui, on entend de plus en plus que l'hyperinformation, d'être très très informé, très très au courant de ce qui se passe. On a parlé de l'Ukraine. Parlons aussi du conflit au Proche-Orient. Tout ça rend les gens particulièrement anxieux, au point que ça peut. Il n'y a pas de lien fait directement, mais que
énervé
ça peut.
Énervé aussi parfois. Ouais.
Et alors, ça énervé pour ouais. Oui, pour des raisons sans doute très très légitimes de part et d'autre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est de générer en soi, dans son corps, des moments de tension, d'inflammation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites, vous qui êtes assez pessimiste sur plein de choses, vous prémunissez de ça comment?
Moi, je le constate, c'est-à-dire je vois autour de moi, je vois même chez les enfants, chez les... Il y a en ce moment-là, en particulier depuis le... Bon, il y a eu le Covid déjà, après ouais. Il y a eu la guerre. Non pas l'opération spéciale, mais la guerre en Ukraine. Et c'est vrai qu'on a l'impression...
Moi, il y a une éco-anxiété aussi.
De moi, des gens qui sont un peu déprimés parce qu'ils ont l'impression qu'on ne progresse pas.
Ouais.
Parce qu'en fait, l'humanité, il y a toujours l'idée que la civilisation progresse. Et moi, j'ai cette idée-là aussi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout rousseauiste. Je ne pense pas qu'on est né bon. On est né ce qu'on est, un peu reptilien, un peu égoïste, un peu. Mais c'est la civilisation qui nous améliore. Et là, avec Poutine, il y a un déni de civilisation comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. C'est-à-dire, il n'y a plus la moindre culpabilité. C'est le passage à l'acte dans toute sa splendeur, le mensonge répété. Enfin, c'est le pire de l'homme, le pire de l'humanité, et qu'il soit à la tête d'un État aussi important que la Russie et
vous faites la comparaison,
un tel bazar dans
Marc.
Le monde. En fait, c'est déprimant parce qu'on se dit c'est une régression. On pensait qu'on allait toujours vers la démocratie, vers le mieux.
Justement, vous faites la comparaison entre les nazis et les réseaux sociaux en disant un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité.
C'est Goebbels. C'est Goebbels.
Oui. Mais c'est aussi les réseaux sociaux. C'est vrai qu'un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité.
C'est vrai qu'on a la sensation de ne pas voir le bout des choses. Et c'est par exemple sur le conflit israélo-palestinien de se dire que on savait qu'on ne verrait pas de notre vivant la fin de ce conflit, mais on a l'impression que là, c'est reparti pour s'entendre plus.
Ah oui, puis c'est abominable ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé depuis le début. C'est-à-dire que moi, ce sentiment que j'ai, personnellement, et que je partage évidemment avec mes proches, c'est ce sentiment de régression, en fait. C'est de me dire, moi je suis né en 57, et j'ai vu quand même beaucoup d'améliorations, c'est-à-dire que ça a été, j'ai vécu la paix. Moi j'ai pas vécu de conflits, il y a toujours eu des conflits, mais... Et là, je me dis, je suis un peu plus près de la mort que de la naissance, on va dire. Enfin, sauf miracle de l'intelligence artificielle.
Avec son squelette et intelligence artificielle, c'est parti.
On sait jamais. Mais, j'ai un sentiment d'échec, en fait. Qui anime, en fait, mon travail.
Bah, je vais pas vous remonter le moral avec la question qui vient. On va parler d'une promesse. Une promesse tenue d'un côté et pas de l'autre. Ce sont les ravages de Patrick Bruel.
Ça, c'est toi et moi,
ça. C'est toi et moi, absolument. Je pense à une chanson de Patrick Bruel. Ça a fait la une de l'actualité.
Ah oui,
pas
c'est
la
deux personnes qui devaient se retrouver 30 ans plus tard.
30 ans plus tard.
Bravo.
Quelqu'un n'est pas venu. Je vous la jeune femme n'est pas venue.
Ouais. Je vous le donne collégialement.
Place des grands hommes.
Deux amoureux dans les années 2000 se promettent de se retrouver 20 ans plus tard. Lui a parcouru 500 km quand même en train pour se rendre au lieu de rendez-vous.
En demandant
aux gens sur les réseaux sociaux
est-ce que j'y vais
si j'y vais pas. Il est motivé, il y va, personne. Ouais. C'est la vie. Est-ce qu'il y a des rendez-vous manqués comme ça dans votre vie, Marc Duguin?
Plus discret, peut-être. Parce que là, c'était...
On fait pas une story.
Là, je réfléchis.
Souvent,
on évite de réfléchir avant de répondre, mais... non, j'ai pas de...
De rendez-vous manqué.
J'ai pas de rendez-vous manqué. Je pense que... Si, il y a des choses que j'ai des regrets.
Mm-hmm.
Je veux dire, évidemment, j'ai des regrets, mais des rendez-vous, des vrais rendez-vous manqués avec des personnes, je crois pas.
Ouais. C'est chouette. Ça, c'est positif, ça.
Bah oui, c'est positif.
Et ben voilà, on y est.
Mais c'est pour ça que j'adore votre émission, c'est qu'à chaque fois, je ressors quand même
en meilleur état qu'avant. Vous êtes le seul.
Un moment.
Du coup, vous repartez sur un bouquin en disant ça va pas du tout.
Non, mais surtout que je suis en train d'en écrire un qui est pas très gay.
Sans blague, je suis choqué.
On peut avoir le thème.
Ouais, je suis en train de finir un roman qui va s'appeler L'avion, Poutine, l'Amérique et moi.
Ok.
Et qui
chasser l'intrus.
Qui a une sorte de mémoire, mais très romancée, qui raconte mon rapport aux États-Unis, à la Russie, depuis très longtemps, et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, avec une vraie histoire romanesque à l'intérieur.
Leïla parlait de rendez-vous manqué. Est-ce que votre plus gros regret dans l'orgie capitaliste, finalement, c'est de ne voir aucune réelle solution, si ce n'est de croire en chaque être humain, finalement, vous vous reposez sur l'individu en disant que c'est à chacun, peut-être pas la politique du colibri, mais en tout cas, c'est à chacun de trouver une solution qui globalement pourrait
Ça demande que justement le curseur entre le consommateur qu'on est et le citoyen qu'on devrait être beaucoup plus, ce curseur se déplace. Mmh. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai vécu la chute du mur de Berlin, c'était la fin du communisme, de la dictature, je m'imaginais pas qu'on allait avoir un système comme ça aussi omniprésent et aussi oppressant.
C'est même un virage essentiel.
Oui, c'est un virage essentiel, c'est-à-dire que en fait, on a foiré l'alternative communiste qui était une alternative qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui en était une potentiellement, a été totalement détruite par des paranoïaques de type Staline et tous les leaders qu'on a connus. Donc, on s'est retrouvé avec la chute du mur, et là, on est rentré. Ça a été la grande fête capitaliste, c'est l'orgie capitaliste, ça vient de là. Sauf que du coup, il n'y a plus de limite et on sent qu'il n'y a pas de modèle alternatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction d'un modèle alternatif.
Daniel,
ce qui est effrayant, c'est que là, on parlait de la citation de Goebbels sur un mensonge répété 1000 fois n'est
10
plus
000,
un mensonge.
10 000 fois devient une vérité.
Oui. On a eu à peu près la même chose avec le fondateur de Fox News, à qui on reprochait de faire des fake news, justement. Et il disait, mais vous savez, une fake news, si vous la répétez à l'infini, elle devient une vraie news.
Et c'est le principe des réseaux sociaux aussi, et de nourrir en autarcie.
En attendant, c'est ce qui a permis de savoir la vérité sur Brigitte Macron, quand même. Donc.
C'est ça.
Et de, oui, il y a du positif.
Et de nourrir grâce aux algorithmes, finalement, de renvoyer à chaque individu un être idéal en disant, mais tout le monde pense comme toi, et toi aussi, tu aimes les marinières vertes avec les bobs multicolores, tout le monde est d'accord avec toi. Toi, tu les détestes, bah, tout le monde est d'accord avec toi, et ainsi de suite.
C'est-à-dire que une des choses les plus tragiques,
c'est un effet miroir.
Années, c'est que la vérité et le mensonge ont à peu près la même valeur.
Ouais.
Alors qu'on a lutté, enfin ma génération, on a lutté pour la vérité. On essayait l'investigation, essayer de ramener une forme de vérité qui nous était un peu occultée, un peu dissimulée. Et en fait, c'est un échec.
L'orgie capitaliste. Moi, je vois pas. J'ai pas lu votre livre comme étant extrêmement sombre et obscur. J'ai vu plutôt comme un lanceur d'alerte, en disant au moins je vous l'aurais dit. Si on ne fait rien, si on ne change pas, y compris notre mode de consommation, y compris la moyenne de 48 fringues par an et par personne, qui est une moyenne de.
Regardez Daniel quand vous dites ça.
De simplement réduire. Non, mais je suis premier à me poser à me poser la question sur mon propre comportement, y compris sur le numérique, y compris sur l'information, y compris sur la surconsommation.
Faudrait imprimer moins de livres aussi.
On est totalement d'accord. Marc Duguin, l'orgie capitaliste chez Alary Édition. Des excuses à présenter.
Désolé pour Prince, sa carrière, sa discographie, ses fringues, ses talonnettes, son brushing. Bref, tout ce qui a été nié, annihilé par Nagui quand dans le blind test, il a dit non, c'est pas Michael Jackson, c'est l'autre là. Il est pointu, monsieur Taratata.
Ils étaient concurrents.
Désolé pour la joie, le fun, la lol, bref, tous les sentiments absents de l'émission de ce matin. Non, ce matin, c'était colère, c'était insurrection, c'était angoisse, c'était chocotte. Bah, vous savez quoi, demain, ce sera pire avec Françoise Civil et Teddy Lucie Modeste qui viendront nous parler harcèlement et art de vivre. Et enfin, désolé pour tous nos auditeurs férus d'histoire qui ont été interloqués par la proposition de mademoiselle Lisa Delmoitier, la complotiste de Molenbeek, à savoir se faire tambouriner à 12 comme en Grèce antique. Alors, pour tout ce qui est technique, je vous propose de vous reporter sur les réseaux sociaux de l'émission.
Merci Marc Duguin, portez-vous bien et on vous recevra avec plaisir pour votre prochain roman. Je rappelle les
rangs. Youpi.
Des rendez-vous sur les smartphones aujourd'hui, c'est une journée pour dompter nos écrans. Dans le 13-14, Jérôme Cadet recevra des auditeurs qui auront vécu une journée sans smartphone. Dans la Terre au carré de Mathieu Vidard, ça sera les impacts sur la santé. Zoom Zoom Zen, la technoférence et le téléphone sonne. Est-ce un objet social ou antisocial avec Fabienne Saint-Est?